La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Le secteur culturel est durement touché par la crise sanitaire qui sévit en France depuis mars 2020. Tous les acteurs de ce secteur ont été amenés à se réinventer et la chaîne du livre n'est pas en reste. De l'auteur au lecteur, ce sont en effet plusieurs maillons qui sont impactés. À titre d'exemple, vous vous demandez comment fait-on la promotion de lecture, a fortiori auprès des jeunes, quand les lieux sont fermés ou fortement contraints, quand la rencontre physique n'est plus possible, ou encore entre le désir de retrouver ses publics et la crainte d'être exposé au coronavirus, comment les professionnels du livre peuvent-ils assurer physiquement leur mission de conseil, de médiation? Si vous êtes encore plus curieux, vous vous demandez sûrement quelles alternatives ou solutions ont été trouvées, comment les bibliothécaires se sont-ils par exemple emparés de l'outil numérique, et enfin, quelles leçons tirées de cette expérience? Pour apporter des éléments de réponse à vos interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir M. Julien Maréchal, directeur de la petite bibliothèque Ronde, située à Clamart, dans le département des Hauts-de-Seine. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Michel.
Julien, pouvez-vous nous décrire en quelques mots la bibliothèque pour laquelle vous travaillez?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, l'un des aspects fondamentaux de notre bibliothèque, c'est que c'est une bibliothèque associative. Il y a une histoire à la fois longue et courte. Courte parce que sous sa forme actuelle, la petite bibliothèque Ronde n'existe que depuis 2007. Mais longue parce qu'elle est l'héritière finalement directe du travail qui avait été réalisé depuis 1965 à Clamart par l'association La Joie par les Livres et qui avait d'une part investi une bibliothèque particulièrement innovante dans le champ de la promotion du livre auprès des jeunes publics, qui avait été voulu par Anne Gruner-Schlumberger, une philanthrope qui avait voulu développer cet outil dans un quartier populaire de banlieue. Et donc, elle avait à la fois voulu créer un équipement inédit à cette échelle et pour ces publics-là dans les banlieues françaises. Elle avait constitué une association et une équipe pour faire vivre ce lieu et elle a accompagné cette action pendant des années et des années. Et La Joie par les Livres a considérablement réfléchi à de nombreuses médiations auprès des jeunes publics et auprès des parents pour faire vivre le livre et la lecture à Clamart et en faire profiter les professionnels de France et de pays divers et variés. Il y a eu énormément de correspondances avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. etc. Et essentiellement aussi en Asie, au Japon. Simplement, au bout d'un certain nombre de décennies, La Joie par les Livres a cessé d'exister en tant que telle, puisque une partie de son équipe a migré à la Bibliothèque nationale de France pour tout le pan éditorial de cette association est devenu le Centre national de la lecture jeunesse. La question a été de savoir finalement que pouvait devenir la bibliothèque à Clamart, alors même qu'il y avait toujours une action de médiation qui était souhaitable, en tout cas que les résidents appelaient de leur vœu et qui était jugée comme étant nécessaire par énormément d'acteurs du livre et de l'édition. Et donc, il a été décidé, sous l'impulsion notamment de Geneviève Pat, qui était l'une des toutes premières directrices et pendant de très nombreuses années de La Joie par les Livres, de créer une deuxième association pour justement faire perdurer cette action de médiation sur le terrain sous la forme donc de la petite bibliothèque Ronde. Donc, nous restons très actifs à Clamart et dans les communes avoisinantes. Clamart, qui est une ville, disons, moyenne, à peu près 52 000 habitants, mais qui est sur un territoire très dense qui évolue considérablement d'année en année avec énormément de projets immobiliers et une refonte un petit peu de la démographie et de la démographie de Clamart et des communes de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris auquel appartient Clamart et qui regroupe 10 autres communes des Hauts-de-Seine.
Vous vous trouvez dans le centre-ville ou en périphérie de Clamart?
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, je trouve effectivement, c'est une très bonne question parce que Clamart est une ville géographiquement très très particulière. Il y a le bas Clamart qui est plutôt là où se trouvent les classes socio-économiques aisées de la ville et qui, la plupart du temps en tout cas, ont un accès assez facile à tout un tas d'équipements culturels, particulièrement le théâtre Jean Harpe, le conservatoire et d'autres structures. Et historiquement, l'une des raisons qui ont fait que la bibliothèque se trouvait plutôt dans le Haut Clamart, donc sur le plateau finalement de Clamart, c'est qu'à cette époque, en 1965, il n'y avait pas d'équipement culturel et il n'y a pas eu de bibliothèque publique avant le début des années 2000. Donc il y avait un défaut d'équipement culturel à l'époque, alors qui s'est comblé naturellement, et notamment parce que le réseau des médiathèques publiques de Clamart s'est constitué d'année en année au XXIe siècle et dispose vraiment de très beaux outils à l'heure actuelle. Mais effectivement, la présence de Clamart, enfin de la bibliothèque dans les Hauts-Clamart n'est pas indifférente, et on a toujours une dimension assez importante de notre action qui est centrée sur des populations et des couches, des classes populaires assez nombreuses, pour lesquels la question de la maîtrise de la langue est vraiment une question centrale, puisque une partie de ce territoire est classée en réseau éducation prioritaire. Donc, il y a une dimension profondément militante de notre côté pour aller parler du livre et renforcer l'action qui peut être engagée par l'école ou par d'autres services de la ville et par les professionnels de la lecture publique de Clamart également, mais pour aller finalement au plus près des besoins d'un certain nombre de familles, tels qu'on peut les percevoir et tels qu'on peut aussi nous indiquer un certain nombre de choses, bien sûr. Mais on se repose aussi sur le regard que portent les professionnels de notre territoire pour aller développer des actions là où il semblerait que ce soit nécessaire.
Donc pour les auditeurs qui connaissent un peu le coin, c'est de l'autre côté du bois de Clamart, sur le plateau vers l'hôpital Béclair.
Exactement, c'est la Cité de la Plaine qui est vraiment, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas.
Oui, c'est très ouvrier, Cité de la Plaine.
Oui, et ce qui est très étonnant, c'est que la bibliothèque historique a été vraiment pensée en contrepoint du bâti, des logements qui s'y trouvent, qui ne sont pas très nécessairement très hauts et très longs, ce ne sont pas des grosses barres d'immeubles comme dans d'autres communes. Mais là, alors il y a 6-7 étages, ce sont évidemment des barres rectangulaires rouges, et la bibliothèque a été vue comme une sorte de deuxième maison, tout en rondeur, très basse, enfin beaucoup plus basse naturellement que les immeubles environnants. Et donc il y avait un contraste saisissant qui demeure entre les deux architectures qui se répondent en fait formidablement. Alors l'un des enjeux, c'est de retourner dans ce bâtiment puisque nous l'avons quitté en octobre 2018 pour que soient engagés des travaux de restauration. Il a été classé au titre des monuments historiques en 2009. Et puis, le temps a fait son œuvre et il y a eu quelques dégradations aussi de loin en loin qui ont pu avoir lieu. Il était nécessaire qu'il soit restauré et on travaille justement avec les collectivités territoriales et la DRAC pour à la fois lui redonner son aspect initial en quelque sorte, mais aussi le configurer pour faire face aux besoins du 21e siècle et aux besoins des jeunes lecteurs au 21e siècle.
D'accord. Merci Julien. Continuons si vous voulez bien en évoquant la crise sanitaire et son lot de consignes actuelles. Comment cette dernière a-t-elle été abordée par vos équipes d'un point de vue professionnel?
Je pense que là, nos auditeurs seront assez, pourront s'identifier en tout cas aux contraintes qu'on a pu subir. Évidemment, le confinement a marqué un tournant assez brutal dans l'année puisqu'on avait une programmation et des projets bien arrêtés et au calendrier bien identifié par nous et nos partenaires. Tout simplement, il a fallu soit reporter, soit annuler bonnement et simplement certaines actions. Le choix qu'on a fait, ça a été d'être particulièrement présent via notre newsletter et via les réseaux sociaux. L'idée a été, au cours du premier confinement, de nourrir finalement les familles qui ne pouvaient plus venir à la bibliothèque de nos propositions de lecture, de découverte, de podcast, de sites d'éditeurs ou d'artistes qui eux-mêmes étaient engagés dans ce travail de rester en lien avec leurs lecteurs et le public et les structures culturelles. Et donc, on a engagé un travail de référencement de ces différentes propositions pour les produire, pour les indiquer à nos propres lecteurs et à nos partenaires. Ça a été un moment assez intense et riche ne serait-ce que pour faire le point sur l'actualité aussi et refaire un peu le point sur ce qui était disponible et intéressant. Et d'en rendre compte, et comment en rendre compte finalement à nos publics, ça a été un travail intellectuel assez intéressant, et qui a pu servir, alors c'est toujours délicat de mesurer aussi l'impact de ce genre de démarche, parce que on a eu certainement pas mal de retours, mais pas tant que ça non plus de la part de nos lecteurs. Donc s'en sont-ils emparés? Est-ce qu'ils y ont trouvé suffisamment de grains à moudre dans des journées, des semaines parfois longue et parfois éreintante pour tout le monde du fait de la promiscuité et de l'enfermement. Ce qu'on avait voulu faire aussi, c'était de laisser la parole aussi aux enfants et à leurs parents, qu'on n'a pas nécessairement réussi à faire une fois que le déconfinement a été engagé. parce que les contraintes d'accueil aussi des publics, on sait, et les différentes phases à respecter pour les bibliothèques pour le déconfinement, ont fait que ce contact-là n'était pas si facile à retisser. Et ça s'est fait un petit peu sur la durée. On a pu voir un peu les effets aussi de ce premier confinement à l'école et dans l'espace public quand on a réinvesti ces lieux pour différentes médiations. Mais je pense qu'on a été un peu frustrés parce que finalement, on n'a pas pu laisser cette parole-là s'exprimer librement, parce que je pense que tout le monde restait contraint à la fois dans ses déplacements, dans sa tête et dans les dispositions à respecter aussi pour des raisons sanitaires évidentes. Donc, le choix a été de faire confiance au numérique et à la newsletter particulièrement pour entretenir ce lien. Au-delà de ça, ça a été malgré tout assez brutal parce que il n'était absolument pas dit qu'on puisse qu'on puisse donner une fin telle qu'on l'avait souhaité, ni même une fin tout court à un certain nombre d'actions qui se sont retrouvées interrompues du jour au lendemain.
Oui, donc vous avez dématérialisé pour partie des services que vous aviez humanisés avant. Et comment, oui. Donc vous êtes à votre poser la question si vous n'avez pas perdu du public, ou est-ce que vous êtes convaincu que vous en avez peut-être gagné plus?
Je pense que c'est très difficile. On en a certainement perdu, notamment parce que la relation des adultes et des enfants d'ailleurs à l'outil numérique fluctue considérablement selon tout un tas de considérations. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'outil numérique à des fins de découverte culturelle, de lecture, etc., je ne suis pas certain que ces propositions aient eu un écho. La question de l'âge aussi se pose, puisqu'évidemment, on est assez scrupuleux sur le fait qu'on ne propose pas d'activités reposant sur les écrans, aux enfants de moins de 4 ans. Donc évidemment, ça nous a coupé d'une bonne partie de notre public régulier, hein, les 0-3 ans, les tout-petits particulièrement. On ne savait plus trop comment s'adresser à eux à distance. Et ça fait partie des publics qu'on a beaucoup moins vus et qu'on continue de moins voir. C'est-à-dire que toutes les médiations qu'on pouvait entreprendre avant le premier confinement à la bibliothèque, on en a repris certaines pendant l'été, à la faveur de l'été culturel mis en place par la préfecture et la DRAC Île-de-France. Mais c'était d'une part dans l'espace public, pour aller au-devant des lecteurs et des enfants. D'autre part, parce que notre propre espace, l'espace temporaire qu'on occupe du fait des travaux de restauration, n'est pas très vaste, il n'y a que 80 mètres carrés, donc on arrive très rapidement à une jauge très faible, finalement. Donc le pari a été de dire, faisons le choix d'aller plutôt dans les lieux partenaires et dans l'espace public, plutôt que d'accueillir ces publics-là. Et donc nécessairement, on a perdu certains de nos lecteurs, certains parents. On a beau essayer de les voir à l'école, à la crèche, dans les jardins d'éveil ou au collège, le fait est qu'il y a énormément aussi d'autres lieux qu'on n'investit plus pour des raisons sanitaires. Et je pense notamment au Resto du Cœur, où on organisait très régulièrement des lectures, des tapis de lecture lors des distributions de repas à destination des enfants qui accompagnaient leurs parents et souvent des tout-petits. J'en parlais avec Michel Valentine, qui est la responsable de l'action culturelle à la bibliothèque ce matin même. Elle disait, mais voilà, ça, ce sont typiquement des publics dont on ne sait pas s'ils ont encore des propositions de lecture dans leur quotidien, pour lesquels les familles sont plus dans une logique de comment survivre, malgré les contraintes économiques qui s'abattent sur elles. On ne sait pas quelle est la place du livre et de la culture dans leur quotidien. En tout cas, nous, on n'est plus là, et on ne sait pas si d'autres que nous sont auprès de ces lecteurs-là. Donc voilà, c'est cet aspect-là qu'on a du mal à mesurer, et on sait qu'il va falloir du temps pour revenir vers ces publics et réamorcer un certain nombre de choses.
C'est vrai que là, vu le contexte sanitaire, économique, accéder à la culture, ça peut devenir un luxe pour certains. Comme on propose des solutions numériques, il faut déjà avoir un ordinateur, un abonnement Internet qui n'est pas systématique partout.
Exactement. Et là encore, je reviens sur la question de la maîtrise de la langue, qui est une thématique vraiment centrale pour bon nombre de familles dans la cité de la Plaine et dans certains autres quartiers alentours à Clamart. Il y a cette dimension-là, et donc ne plus être au contact de ces familles, c'est aussi, je pense, mais peut-être que c'est une erreur de penser ça, mais c'est aussi pénalisant pour ça, pour le rapport à l'écrit, pour le rapport à la langue, pour le rapport à toutes ces notions qui font qu'on a besoin à la fois d'une plus grande aisance pour comprendre la langue, mais aussi d'un imaginaire qui permette à tous de s'évader et de tisser des liens entre générations. Donc c'est un peu dommageable. C'est-à-dire que oui, on a une présence numérique On a du mal à évaluer son impact. Par ailleurs, dans les médiations qu'on a maintenues avec l'action volontariste d'un certain nombre de chefs d'établissement scolaire et de crèches, bah on sait très bien qu'on ne retrouve pas nécessairement ces publics dont on ne va plus à la bibliothèque.
Est-ce que la collectivité, en tant que partenaire, a aidé financièrement ou fourni les moyens techniques pour que vos équipes puissent atteindre leurs objectifs de ne pas laisser en jachère l'activité de la bibliothèque?
Je trouve qu'on est dans un moment assez intéressant sur le plan des relations partenariales entre la collectivité territoriale et l'association. Pour différentes raisons, d'une part, il y a déjà un contrat territoire lecture qui a été reconduit sur le territoire et qui nous amène à discuter toujours plus avec les professionnels de la lecture publique et l'ensemble des acteurs de la lecture sur les territoires de Clamart et des communes alentours. Il y a également une labellisation sur ce territoire pour le label Première Page. Donc là aussi, nous sommes intégrés à ces discussions et on correspond très régulièrement avec les médiathèques de Clamart, de Fontenay-aux-Roses, de Malakoff et de Bagneux particulièrement. Il y avait comme ça tout un travail de fond, un gros travail de fond sur comment former par exemple les professionnels de la petite enfance dans ces communes-là et comment finalement travailler de concert pour toucher ces publics qui eux-mêmes pourront toucher les enfants dans leur quotidien. Donc il y a une dynamique très importante entre professionnels qui est à l'œuvre sur le territoire. Et la petite bibliothèque ronde, il trouve toute sa place, et à la fois en proposant des initiatives ou en suivant celles des autres professionnels. Pour répondre par ailleurs à votre question, je pense que on a l'avantage de ne pas d'être dans la complémentarité avec le réseau des médiathèques de Clamart ou des autres communes, dans le sens où en tant qu'association, on bénéficie peut-être d'une plus grande souplesse pour aller vers certains publics ou pour aller sur des actions très précises auprès de groupes réduits plutôt que sur l'ensemble d'un établissement ou l'ensemble des classes d'un même établissement, d'un même degré, pardon. Là où peut-être que les médiathèques ont un fonds qui est beaucoup plus riche que le nôtre. En tant qu'association, on n'a pas forcément les fonds pour mener à bien les politiques d'acquisition intensives. Mais peut-être que là, il y a une complémentarité qui s'exerce et qu'on retrouve à différents égards. Je pense qu'on travaille en bonne intelligence avec les collectivités territoriales pour être au plus près des besoins des uns et des autres. Mais c'est vrai que je pense qu'il nous faudra à tous un temps pour faire le point ensemble sur les aspects positifs et négatifs de cette situation. Comment ça a fonctionné à l'aune de notre territoire? Je vous livre ça, notre discussion nous fait penser, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir cette discussion-là pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné, pour voir comment on pourrait envisager peut-être des actions peut-être différentes ou similaires en fonction d'éventuelles autres pandémies, puisque ça peut nous guetter aussi, quoi.
Oui, effectivement, les pandémies, apparemment, on est en train de faire une répétition.
Oui. Donc, mais je pense que l'un des aspects vraiment marquants, je trouve, c'est que oui, il y a eu des aspects négatifs, profondément négatifs, dans les liens qu'on a pu, nous, voir disparaître ou s'atténuer avec nos publics ou dans les projets qu'on n'a pas pu mener comme on le souhaitait, encore une fois. Mais je pense que, en tout cas, à l'échelle de Clamart, ça s'est joué à un moment où l'identité, peut-être pas l'identité, mais la culture professionnelle des équipes des médiathèques du territoire et nécessairement de la petite bibliothèque ronde était amenée à être de plus en plus en discussion et à construire des choses ensemble. Donc je pense que ça peut permettre d'avoir des réponses d'autant plus efficaces sur des situations telles que celles que l'on connaît et qui pourraient se reproduire. Ou plus simplement, une fois que la chose sera peut-être sous contrôle et que tout redeviendra plus ou moins normal, à la faveur de ces relations, développer des vraies pratiques de travail auprès du public, les jeunes publics en l'occurrence, de manière concertée et d'autant plus approfondie, finalement.
Effectivement. Et vous, en tant qu'association, ce que je comprends, c'est par le biais de la lecture, vous créez des lieux où les gens se rencontrent et interagissent et échangent. Là, c'est clair que ne pas pouvoir accueillir un public, même jeune, et donc le laisser chez lui par une interface numérique, ça a créé un isolement. Chaque individu, certes, lit la même page, mais est dans son coin. Au regard de cette période sanitaire, de crise sanitaire et des incertitudes qui planent pour l'avenir, quel regard portez-vous sur votre métier de bibliothécaire et votre mission actuelle ou vos missions futures?
Je pense que il y a si j'étais honnête, je vous dirais ça dépend des jours. Il y a des jours où je me dis bon, la situation n'est pas si catastrophique et tout va bien se passer. Et il y a d'autres jours où je me dis retisser ce lien va prendre vraiment du temps et très rapidement nous serons tous confrontés aussi à des considérations budgétaires, économiques, qui feront qu'on aura peut-être du mal même à maintenir les moyens dont nous bénéficions jusque-là. Ça dépend des jours. Malgré tout, j'aurais tendance à me dire que ce qui est révélateur, c'est l'envie de chacun de partager aussi ses points de vue, ses expériences, et un besoin de travailler encore davantage ensemble. C'est un peu le sens de ce que je vois donc à l'échelle de Clamart, mais des commentaires que je peux entendre par ailleurs lors de conférences, de séminaires ou dans mes échanges aussi avec les professionnels de la lecture publique. Ou dans ce qu'on peut constater aussi parmi les enseignants et les professionnels de la petite enfance, il y a, je pense, le sentiment que le collectif et la collectivité sont des notions qui doivent être encore plus prégnantes finalement. Donc il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect sur la question du numérique, il ne faudrait pas que ça s'éternise non plus trop. C'est-à-dire que le numérique est un champ de possibles formidable, mais c'est vrai que ça ne remplacera pas, à mon sens, la médiation humaine. Et en présentiel, puisque c'est l'expression consacrée du moment. Et ça, le moment où nous pourrons y revenir sera le plus tôt sera le mieux. Mais c'est très difficile et c'est surtout très démobilisant finalement de ne pas avoir d'échéance. Et c'est ce qui rend d'autant plus précieux finalement la possibilité de faire perdurer certaines médiations pour conserver ce lien. En tant que médiateur du livre, on a besoin d'être au contact des enfants de 0 à 12 ans nous concernant, pour être pertinent dans notre action, dans nos missions et dans le retour que l'on peut faire de ces expériences aussi aux professionnels de tous horizons pour leur montrer que ce que nous avons réalisé peut être reproduit par ailleurs sur le plan du numérique, mais pas que dans le domaine des médiations autour du livre, de la lecture et tout ce qui a trait au champ culturel, quoi.
Donc vous m'avez parlé de médiation, vous m'avez parlé de jeunes enfants, vous avez... Ou vous le pensez, mais vous l'avez pas dit, mais et les parents là-dedans dans cette histoire, c'est quand même eux qui amènent les enfants pour lire, non?
Alors oui et non, parce que encore une fois, quand on est à l'école, on a affaire à d'autres adultes, même si les enseignants et les directeurs d'établissement ont toujours, a priori en tout cas avec les exemples qu'on a sous les yeux à Clamart, le soin d'inclure à chaque fois les parents et de leur indiquer que l'école est un lieu où certes il y a l'apprentissage de la lecture, mais d'autres lieux permettent de prolonger ce travail-là et ces découvertes-là, et notamment les médiathèques, la bibliothèque et les musées. Mais les parents ne sont jamais loin de nous, c'est-à-dire que même si le rapport à nos jeunes publics fait que la plupart du temps les enfants sont quasiment autonomes et viennent par eux-mêmes, il va de soi que nous, on a toujours à cœur d'associer les parents autant que possible dans la vie de la bibliothèque, dans le rapport que les enfants entretiennent avec la bibliothèque et les livres. Et donc, on associe aussi souvent que possible les parents à nos médiations, à nos temps d'accueil. Et la difficulté, comme vous pouvez l'imaginer, c'est que en ce moment, c'est un des chaînons qui nous fait un peu défaut. C'est-à-dire que quand on envoie notre newsletter pour ne parler que d'elle, ou quand il s'agit de mettre en place le service de click and collect qu'on a développé, les parents sont là, mais on n'a plus de contact direct avec les enfants. Et inversement, c'est-à-dire que quand on voit les enfants en classe ou quand ils se présentent par eux-mêmes à la bibliothèque pour venir récupérer les livres, on ne les voit plus nécessairement avec leurs parents. Donc il y a effectivement un manque de ce côté-là, et encore le plus tôt sera mieux pour les revoir ensemble, pour qu'ils aient une expérience commune de la bibliothèque et du livre, en tout cas telle qu'on peut leur en parler et telle qu'on peut parmi les actions qu'on peut leur proposer.
Vous n'avez pas évoqué quels sont ces temps de lecture où les enfants peuvent aller venir vous voir. À l'étude, c'est en fin de journée? Quels sont les horaires?
La bibliothèque a été conçue. Enfin, les temps d'ouverture ont été conçus pour être en négatif des temps scolaires. Donc la bibliothèque, depuis, je dirais pas toujours, mais en tout cas depuis très longtemps, est ouverte quand l'école est fermée, donc à partir de 16 heures en semaine. Et puis surtout, elle est ouverte le week-end, samedi toute la journée et le dimanche après-midi. Et donc, en semaine, il y a ces temps d'accueil généraliste où là, les enfants sont libres d'accéder aux différentes ressources de la bibliothèque, bien que l'équipe soit là pour les conseiller et les orienter, évidemment. Donc, ça peut être les livres, l'outil numérique avec les tablettes ou des ordinateurs portables. Ça peut être aussi l'aide aux devoirs, tout simplement. Mais il y a après, le week-end particulièrement, et notamment pendant les vacances scolaires, des temps de création collective, avec des ateliers qui sont proposés pour découvrir, créer, s'approprier ensemble, parents et enfants, avec l'équipe de la bibliothèque, des œuvres ou des travail d'auteurs, d'illustrateurs, avec des thématiques très particulières. Là, ce qu'on fait plus ou moins cette année, mais donc là, le numérique a pris le pas sur la médiation en direct. C'est la thématique des carnets de voyage où on fait découvrir aux enfants le bassin méditerranéen. On avait emmené les enfants au musée du Louvre au mois d'octobre dernier pour visiter les collections gréco-romaines. On devait aller à la cité de l'immigration également, ça n'a pas pu se faire. Mais l'idée est de leur proposer, de les nourrir culturellement, de lecture, de support de création pour qu'eux-mêmes développent leur propre carnet de voyage à titre individuel. Et que, à la faveur de ce carnet individuel, eh bien, ils participent à un travail collectif où là, il y aura un carnet de voyage collectif à la fois concret, réalisé sur support papier, et en format numérique avec la possibilité d'avoir sur un site l'ensemble des créations, une carte et puis tout un tas de commentaires rédigés et imaginés par les enfants. Dans quelle mesure allons-nous pouvoir faire réaliser cet objectif? Là, je ne le sais pas encore, mais c'est dommage, on a des collaborations très intéressantes avec la maison d'édition Maison Elisa, qui est une très belle maison d'édition qui a développé une collection sur les voyages en Méditerranée, justement, la collection Corail. On voulait travailler avec l'illustratrice aussi, Clémence Pénicaud, pour toute la partie habillage du site internet qui allait rendre compte de ce travail collectif. Il y avait une exposition dans une école des planches de Maison Elisa. Je ne sais pas du tout à l'heure actuelle comment on va pouvoir réaliser tout ça. Peut-être qu'on prendra simplement plus de temps pour le faire. Ça peut être aussi la solution. C'est tout l'enjeu du nourrissage culturel pour nous. C'est vraiment lire aux enfants des histoires pour qu'ils se saisissent de ces thématiques et qu'ils puissent s'inscrire dans une démarche de création, encore une fois, individuelle et collective. Et toujours, on est là pour les accompagner, jamais pour leur dire quoi faire, quoi. C'est toujours eux qui nous montrent finalement ce qu'ils ont envie de faire plutôt que l'inverse.
Effectivement. Julien, notre émission touche presque à sa fin.
Oui.
Je crois savoir que vous êtes également à l'initiative d'une grande enquête qui vise à connaître l'impact de la crise sanitaire sur le secteur jeunesse des bibliothèques. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et indiquer aux auditeurs comment y participer?
Oui, l'idée c'était, pour faire suite aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense que, en tout cas, nous avons ressenti le besoin de savoir comment d'autres professionnels que nous ont fait face aux mêmes situations que nous, comment ils ont appréhendé le confinement, le déconfinement, etc. À l'aune aussi de la question du numérique et du recours au numérique pour pallier finalement l'absence de public dans leurs murs. Et la forme qui nous a semblé la plus adaptée était de faire appel à une enquête en ligne via un formulaire qui est accessible sur Internet et qui permet aux professionnels de répondre à toute une série de questions. Ça ne prend pas trop de temps, je pense. De mémoire, ça demande 8 minutes.
Vous avez dit accessible sur Internet, à quelle adresse?
Alors, le plus simple, peut-être, si vous en êtes d'accord, c'est peut-être simplement d'aller sur le site de la bibliothèque ronde, de la petite bibliothèque ronde, et là, vous pouvez, il y a une page qui lui est consacrée. Il y a aussi un appel à participation qui peut être encore accessible sur Internet. Mais sinon, il y a à la disposition de toutes les personnes qui seraient intéressées l'adresse peut-être plus directement. Mais en gros, l'idée est de rendre compte de cette étude qui, pour l'instant, a reçu pas mal de participation de toute la France et de certains pays étrangers aussi, qui ont voulu se saisir aussi de cette proposition. Il y a pas mal de professionnels canadiens, belges, suisses, notamment, qui ont voulu y participer pour voir un petit peu comment la situation a été appréhendée et quelles sont les perspectives que chacun voit aussi à la situation actuelle. Il y a des aspects positifs au-delà des aspects évidemment négatifs à tout ce que les uns et les autres ont pu vivre. Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui permettent de voir ce qui a été mis en place, ce qui a fonctionné et les perspectives que ça laisse augurer aussi aux uns et aux autres. J'ai commencé à lire certaines réponses et c'est vrai qu'il y a spontanément beaucoup de professionnels qui avouent leur crainte et leur peur de ne pas retrouver une fréquentation intéressante et d'avoir un lien qui s'est peut-être rompu avec leur public. L'une des questions, c'est de savoir si la crise a favorisé la création de nouveaux outils numériques et de valoriser certaines autres ressources en ligne. Ben là, les réponses sont assez partagées. Parfois le cas, parfois pas du tout. Donc voilà, ça va être très intéressant d'étudier tout ça et surtout d'en rendre compte dans le courant de l'année 2021 pour que tout le monde puisse peut-être, en tout cas l'idée qu'on s'en fait, c'est en bénéficier aussi pour faire la part des choses et ajuster au mieux peut-être leur propre action.
Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci Julien. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes directeur de la petite bibliothèque ronde située à Clamart en banlieue parisienne.
Merci beaucoup Jean-Michel.
Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que nous avons amené des éléments de réponse aux questions que, comme nous, vous vous posez sur les conséquences de la crise sanitaire quant au monde des bibliothèques. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.